Un autre texte particulier de la Bible évoque ce sujet de la langue. Vous allez avoir le texte et quelques questions à réfléchir. Jacques chapitre 3, à partir du verset 2. Chacun de nous commet des fautes de bien des manières. Celui qui ne commet jamais de faute dans ses paroles est un homme, une femme, un enfant parfait, capable de maîtriser son corps tout entier. Quand nous mettons un mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Pensez encore au bateau. Même s'il s'agit de grands navires et s'ils sont poussés par des vents violents, il suffit d'un tout petit gouvernail pour les diriger au gré des décisions du pilote. De même, la langue est une petite partie du corps, mais elle a de grandes prétentions. Ne suffit-il pas d'un petit feu pour incendier une vaste forêt? La langue aussi est un feu. Elle est le monde de l'injustice. Elle est là parmi les autres organes de notre corps et contamine notre être entier. Allumée au feu de l'enfer, elle enflamme toute notre existence. L'homme est capable de dompter toutes sortes de bêtes sauvages, d'oiseaux, de reptiles, d'animaux marins, et il les a effectivement domptés. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un fléau incontrôlable. Elle est pleine d'un venin mortel. Nous nous en servons pour louer le Seigneur, notre Père. Et nous nous en servons aussi pour maudire les hommes pourtant créés pour être ceux qui lui ressemblent. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères et sœurs, qu'ils en soient ainsi. Avez-vous déjà vu de l'eau douce et de l'eau salée jaillir d'une même source par la même ouverture? Mes frères, un figuier peut-il produire des olives ou une vigne des figues? Une source salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Et on va vous inviter pendant quelques minutes, en foyer ou si vous êtes tout seul avec les personnes à côté de vous, mais sans vous déplacer et sans postillonner et sans partager le Covid, donc en restant à votre place, de réfléchir et de partager entre vous vos réponses à ces questions. Pour Jacques, qu'est-ce qu'une personne parfaite ? Quelles images décrivent la langue dans ce passage? Quelles contradictions existent-ils dans notre façon d'utiliser notre langue? T'arrive-t-il, à toi, à moi, de dire de mauvaises paroles? Je connais déjà la réponse à la numéro 4. Moi. Quelques minutes à partager entre vous, vous pouvez faire du brouhaha, il n'y a pas de souci. Et chez vous aussi, dans vos familles, vous pouvez aussi, à travers ce texte, répondre un peu, réfléchir à ces questions, et on reviendra dessus après dans quelques minutes. Vous savez de quoi vous pourrez discuter ce midi ? Autour d'un repas, peut-être. L'être humain est très fort, nous dit ce texte. Et très fort pourquoi ? Très fort pour dompter toutes sortes d'animaux. Il y a déjà dompté des éléphants, des perroquets, je ne sais plus ce que j'ai mis l'autre, un aigle, un ours, un dauphin, des tigres ou d'autres félins, effectivement, des animaux plus domestiques comme le chien. C'est vrai que beaucoup d'animaux ont été effectivement domptés, comme l'écrit Jacques. Peut-être plus généralement, on peut dire maîtrisé, selon certains. Et quelle est d'ailleurs une des techniques que l'on peut utiliser pour se faire obéir de certains animaux, selon ce que Jacques écrit ? Personne n'a lu le texte ? Un mors. M-O-R-S. Comme pour les chevaux, que l'on peut alors diriger facilement. Enfin, plus ou moins. J'imagine que ça dépend du cheval. Bon, c'est le premier, ce n'est pas un cheval. Mais il a aussi un mors, celui-là. Ou du cavalier, peut-être. Celui qui ne commet jamais de faute dans ses paroles est un homme parfait. Quelqu'un est-il parfait ? Ah, on en a un. 90% parfait ? 75% ? 50% ? Qui ? Voilà. Nous sommes encore tous en chemin. Et on est obligé de le constater. Grand ou petit, l'être humain n'est pas très fort pour dompter sa propre langue. Tout le monde, un jour ou l'autre, comme Jacques fait en effet ce constat, et des fois, ça dépend pour qui, mais c'est même plusieurs fois par jour que l'on peut faire ce constat. Oh là là, la langue, que c'est difficile de la maîtriser. C'est un fléau incontrôlable, elle est pleine d'un venin mortel. Ouais, il exagère quand même, non ? Tous les mots qui sortent de notre bouche ne sont pas si terribles que ça quand même. C'est vrai quoi, il y a des choses bonnes aussi. Oui, c'est vrai. Mais le problème, souligne Jacques, c'est qu'il y a aussi des mauvaises. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Il ne le faut pas. La vérité, les choses bonnes, les choses utiles, pour reprendre les trois tamis de tout à l'heure, les compliments, les encouragements, les remerciements, les salutations, les louanges, les prières. Et tout ça, c'est très bien. Mais que faire des mensonges, des calomnies, des commérages, des méchancetés, des insultes et encore des moqueries ? Tant de paroles assassines que même si elles nous semblent parfois anodines, pas graves, peuvent dévaster, détruire beaucoup de choses. Comme une simple étincelle peut mettre le feu à une grande forêt. En très peu de temps, une autre image que Jacques utilise. Quelle désolation ensuite. Il en faut du temps pour réparer les dégâts des fois. Il faut longtemps avant que les choses repoussent ou soient reconstruites. Détruire va beaucoup plus vite que construire. Quelle est la solution alors ? On a vu l'histoire des trois tamis tout à l'heure et certains proposent aussi le même genre de recette de tourner cette fois sa langue dans sa bouche avant de parler. Ça sert à quoi de faire ça ? Pas une mauvaise idée, tourner cette fois sa langue dans sa bouche, ça prend du temps. Et au moins avec ce peu de temps que l'on met de côté, on a peut-être le temps de mieux réfléchir avant de dire une bêtise. ou une méchanceté, ou avant de répondre du tac au tac à une parole qui a pu nous être dite. Et en particulier, si celle qu'on a reçue, celle qu'on a entendue, n'était peut-être pas vraie, bonne ou utile elle-même. Est-ce suffisant comme solution ? Du bon scotch. Ouais, ça peut aider, de bonnes vieilles méthodes. Mais si on veut quelque chose de plus radical, moi je dis, mettons-nous un mort aux dents. Un mort entre les dents. Et il en existe de tellement de sortes et formes différentes qu'il y en aura pour tous les goûts. Pour nous dompter, pour nous dresser, c'est peut-être comme ça que le Seigneur devrait faire avec nous, non ? Surtout pour certains que je connais, d'ailleurs. Moi, personnellement, ça va, bien sûr. Hein. Ouais, bien sûr. Dieu aurait la force et la puissance de faire ça, en tout cas. Dieu a la force de nous contraindre, de nous dompter, de nous dresser, de nous obliger. Peut-être même en a-t-il le droit. Et ça pourrait être une bonne chose avec certains. Ça pourrait. Mais pour être franc avec vous, je me réjouis de ce que Dieu ait préféré une autre méthode. Dieu a préféré une autre méthode. Ainsi, Dieu nous laisse la liberté. Dieu nous laisse la liberté. Il ne nous met pas à mort, ou une laisse, ou quoi que ce soit de ce genre. Il ne nous conduit pas par la contrainte. Et je trouve que c'est vraiment un grand signe d'amour de sa part. Je ne sais pas si on peut dire un signe de confiance. Lui, il sait déjà toutes les bêtises et les méchancetés qu'on va dire par la suite. Pour tous nos jours encore à venir. Alors, je ne sais pas si on peut vraiment utiliser ce mot de confiance, mais il y a certainement de sa part une marque de respect à notre égard. De l'amour, ça c'est sûr. Et aussi de responsabilisation. Dieu veut nous rendre responsables. Quel choix faisons-nous ensuite ? Comment utilisons-nous notre liberté ? Faisons-nous alors le choix de soumettre notre volonté à la sienne ? Dieu nous laisse la liberté de vouloir qu'il nous change ou pas. Moi, je voudrais cela pour tous les jours, et on l'a chanté aussi tout à l'heure. Je voudrais que Dieu me change tous les jours et pour toujours. Et je ne sais pas pour vous, mais moi, je sais que j'ai besoin de son aide. Et encore une fois, je sais aussi pour vous. Et on reboucle là sur ce qui a été déjà partagé dans la première partie du culte. La méthode choisie par Dieu, c'est la chirurgie cardiaque. Évidemment, c'est une image aussi, on ne sait pas trop ce que les docteurs de l'époque de Jésus savaient vraiment de l'anatomie humaine, de comment le corps humain fonctionnait. Je ne sais pas si j'aurais eu envie de me faire opérer par eux, mais ils savaient, semble-t-il, que le cœur est un organe central, l'organe qui commande tous les autres, en tout cas dans le sens de l'organe dont dépendent tous les autres. Le cœur, c'est vital. Et on le confirme encore aujourd'hui. Si le cœur s'arrête, il y a un sérieux problème. Le cœur alimente tous les autres. La bouche peut sembler diriger tout le corps. Et si on ne la maîtrise pas, c'est effectivement le cas. Et elle peut nous emmener dans la mauvaise direction, tel le gouvernail du bateau. Et là, il y a une image où le gouvernail n'a pas emmené le bateau dans la bonne direction. Ce bateau qui est échoué sur les rochers. Jésus a souligné que c'est en fait le cœur qui devrait alimenter la langue. Notre cœur alimente notre langue. Et c'est vrai pour le sang et pour l'oxygène qui y arrive. C'est vrai pour la motivation des paroles qui vont sortir. Bonne ou mauvaise motivation. Que Dieu continue à purifier nos cœurs, nos motivations, nos intentions, nos principes, nos valeurs, qu'il enlève notre orgueil, notre susceptibilité, notre rancune, pour plutôt y mettre l'amour, le pardon, la paix, pour qu'ensuite notre langue ne dise pas n'importe quoi, mais dise toujours vrai, bon et utile. Ça fera plaisir à Dieu, mais ça fera aussi du bien. Ça fera du bien autour de moi et ça me fera du bien. Il n'y a pas une numéro 13 ? Voilà, j'ai clé plus bas, non ? Je l'ai zappé alors. Seigneur, merci pour ton amour pour moi. Seigneur, aide-moi à te ressembler, aide-moi à agir et à parler comme toi. Remplis mon cœur. Je veux être une source de bénédiction autour de moi, exclusivement, seulement source de bénédiction. Ô change et remplis mon cœur, Seigneur. Je vous invite à prier. Seigneur, merci parce qu'avec moi, tu ne m'as pas mis un mort dans la bouche, comme pour les chevaux. Tu n'as pas voulu me dompter, me dresser, me forcer à aller là où je ne veux pas. Non, toi, tu veux agir avec douceur, avec bienveillance, avec fidélité, avec amour. Non, pas sous la contrainte, mais tu veux vraiment me changer de l'intérieur, au plus profond de moi, pour changer en bien. Enlever le mal qu'il y a et le remplir de bien, le remplir de ta présence, du Saint-Esprit. Quel privilège de te connaître, toi le Tout-Puissant. Tu es un Dieu merveilleux, un Dieu de douceur et de bienveillance, un Dieu de bonté, un Dieu de vérité. Je veux te remercier, Seigneur, et te demander effectivement ton aide au quotidien. Que ma volonté s'aligne toujours davantage sur la tienne, que je te ressemble toujours davantage. Oui. Change mon cœur, Seigneur.